Chef de chœur sur la Guitite, psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi je soupire auprès des autels, éternel maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Ici s'arrête la parole de Dieu.
Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup pour l'invitation de la part de l'Église. Encore une joie et un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Alors, deux petites choses en préambule. Tout d'abord, je voudrais excuser mon épouse et les enfants qui devaient être là ce matin, mais la nuit a été compliquée, je vous passe les détails, mais un de mes garçons était malade, donc on a hésité ce matin, mais Dieu voulant, si tout se passe bien, si la journée se repose bien, demain vous pourrez les saluer, seront là à la convention avec vous. Deuxième préambule, je vous invite à garder votre Bible ouverte ou allumée pour ceux qui la lisent sur le smartphone ou sur la tablette, mais gardez le texte sous les yeux parce qu'on va être amené à revenir régulièrement dans ce texte. Juste deux mots, on va revenir 20 ans en arrière. J'ai fait des études d'hôtellerie, de boulangerie, pâtisserie, de glacerie, de chocolaterie. Il y a déjà 20 ans, ça fait déjà longtemps. Mais une année, l'école a décidé de faire des stages à l'étranger. Alors dit comme ça, ça paraît une belle chose, une bonne chose, mais quand vous avez 18 ans, que la destination qu'on vous dit c'est la Bretagne, et qu'en plus vous commencez une relation amoureuse avec la femme qui va devenir votre épouse, vous avez envie de tout, sauf de partir là-bas en stage. Alors, je dois avouer, le stage a été bénéfique, je suis tombé dans une bonne pâtisserie, j'ai appris 2-3 trucs sur le métier, mais si ce n'est... À part cela, pendant les 3 semaines, ça a été un séjour catastrophique pour moi. Alors je voudrais vous donner quelques détails. Je ne peux pas tout donner ce matin, mais juste 2 petits détails qui vont vous faire comprendre le séjour. Premier week-end d'accueil dans une famille. Dites-vous que vous avez 18 ans, que vous êtes chouchouté par vos parents, vous arrivez dans la famille et au milieu de la table, vous avez la grande langue de bœuf entière au milieu de la table à manger pour le souper. Ça commençait pas très bien, je vous avoue. Je l'ai mangé parce que voilà, on m'a appris à être poli. Deuxième soirée, c'était vendredi soir, samedi et dimanche, j'ai passé ma journée enfermée dans un appartement d'un jeune avec tous ses copains. Je n'ai rien bu, je n'ai rien fumé, mais eux, ils passaient leur temps à fumer de la cigarette, à fumer autre chose que de la cigarette et à boire du whisky dès 8h du matin. Vraiment un séjour catastrophique. J'avais envie d'une seule chose, c'était juste de revenir en Belgique, de retourner. Je hâtais le jour de la fin de ce stage. Je me hâtais tellement, je jalousais même les Belges. Je me dis, non, je préfère la Belgique, là c'est bien, c'est là que je veux être. C'est un peu ce qui se passe ici, dans le psaume que nous avons sous les yeux. Le psalmiste aspire et veut, hâte d'aller dans la maison de l'Éternel. Il pouvait jouir du temple, il était auprès du temple, de l'Éternel, près de la présence de Dieu, avant d'être déporté au loin. Ce psaume reflète le sentiment ici du cœur, mais surtout les raisons qui poussent ici l'auteur de ce psaume à désirer habiter dans la maison de Dieu. Alors ce psaume, c'est un cantique qui est divisé en trois strophes. Je ne sais pas si vous avez dans vos bibles, mais chaque fois on a une pause et une pause. On voit qu'il y a trois strophes. Et on va regarder ces trois strophes séparément ce matin, chacune l'une après l'autre. Mais avant de regarder la première, regardez avec moi le texte, il y a un refrain qui revient dans chacune de ces strophes. Premièrement, verset 5. Heureux l'homme. Première strophe. Dans la deuxième strophe, au verset 6, heureux ceux. Et puis on est dans la dernière strophe, au verset 13, heureux l'homme. Habiter dans les parvis de l'Éternel, habiter dans la maison de Dieu, habiter dans sa présence. Voilà ce qui rend heureux. Voilà ce qui rend heureux le psalmiste, et pour trois raisons que nous allons découvrir ensemble. Premier point ce matin, heureux de célébrer Dieu sans cesse. Regardons les cinq premiers versets, je vais les relire. Au chef de chœur sur la guittite, psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, éternel maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. En lisant ces quelques lignes, on voit la soif de l'auteur. Vous avez remarqué ça? On voit à quel point il désire habiter dans la maison de Dieu. Verset 3, il soupire, pas soupir de... Ouais, c'est bon, je m'en fous. Non, il soupire, il languit, il a un désir profond d'habiter là-bas. Fin du verset 4, il soupire après quoi? Après les autels de l'Éternel. Verset 5, heureux ceux qui habitent ta maison, eux, ils peuvent te célébrer sans cesse. Il sait que les résidences de Dieu sont aimées, verset 2, c'est ce que le texte nous dit. Parce qu'elle procure une joie et une paix sans pareil. Début du verset 4, relisez avec moi. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Il est en train de dire que pour lui, la maison de Dieu est comme le nid pour les hirondelles, un nid pour les oiseaux. Un endroit sûr, un endroit paisible, un endroit duquel on ne voudrait pas s'éloigner. Là, on est en sécurité. Habiter les parvis de l'Éternel, c'est d'être dans l'intimité avec lui, c'est avoir une relation étroite avec Dieu, c'est reconnaître qui il est. Regardez comment il parle de lui, regardez comment le psalmiste parle de Dieu. Verset 2. Éternel, maître de l'univers. Verset 3, les parvis de l'Éternel, tout mon être pousse des cris de joie vers qui? Vers le Dieu vivant. Verset 4, deuxième partie, l'Éternel maître de l'univers, mon roi, mon Dieu. Il n'est pas avare dans la description du maître de la maison dans laquelle il désire habiter. Mais c'est normal, ça va de pair. Habiter dans la maison de Dieu, c'est habiter dans la présence de Dieu. L'auteur est loin du temple, mais il sait Quel est le privilège de ceux qui s'y trouvent? Regardez verset 5. Ils sont heureux. Ils sont heureux ceux qui sont dans ta maison parce qu'ils peuvent te célébrer sans cesse. Célébrer Dieu, voilà ce qui rend heureux. À cause de notre péché, la Bible nous dit clairement que nous sommes privés de la présence de Dieu à nos côtés. Rappelez-vous le jardin d'Éden. Adam était proche de Dieu. Ils habitaient ensemble, ils communiquaient intimement. Mais sa désobéissance à l'Éternel, le maître de l'univers, a fait en sorte qu'il soit chassé du jardin, chassé loin de Dieu. Nous aussi, nous sommes loin de Dieu à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. Mais dans sa grâce, Dieu n'a pas voulu laisser la situation comme ça. Dieu n'a pas voulu laisser la situation telle qu'elle était. Il a mis en place le moyen d'être présent pour son peuple, n'est-ce pas ? Dans un premier temps, dans une tente au milieu du désert, ensuite dans un temple construit par Salomon. Et c'est là que l'auteur du psaume ici veut se trouver, dans ce temple. Et même plus précisément où ? Auprès de l'autel, endroit qui lui permettra de célébrer Dieu sans cesse. Mais pour pouvoir être dans la présence de Dieu, être réconcilié avec lui, cet autel doit être le lieu d'un sacrifice, un sacrifice expiatoire qui détourne la colère que je méritais pour mon péché sur un agneau sans tache, sans défaut. C'est uniquement à travers ce sacrifice que le psalmiste pourrait vivre dans les parvis de Dieu et le célébrer sans cesse. Aujourd'hui, nous devons soupirer, non après les autels où il y a des sacrifices temporaires, mais nous devons soupirer après la croix de Jésus-Christ, lieu choisi par Dieu pour accomplir le sacrifice parfait, celui de Jésus-Christ, à cause de notre péché. Dieu est venu habiter parmi nous en Jésus-Christ pour que nous puissions aujourd'hui habiter dans sa présence. Le problème vient de nous et la solution vient de Dieu. Voilà la grâce. Le problème vient de nous et la solution vient de Dieu. Voilà la grâce de Dieu envers nous. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Avant que Jésus donne sa vie pour toi, avant que Jésus devienne le lieu de rencontre avec Dieu, nous étions des adultères, des ivrognes, des menteurs, des voleurs, des médisants, des méchants. Mais par la grâce de Dieu envers nous, nous sommes maintenant des adorateurs du Dieu vivant. Nous pouvons l'adorer sans cesse. Parce qu'en Jésus, il nous a fait rentrer dans sa présence pour l'éternité. Sommes-nous heureux ce matin ? Sommes-nous heureux de la transformation que Dieu a fait en nous et de nous ? Quand tu comprends que c'est uniquement en Jésus-Christ que tu peux entrer dans la présence de Dieu. Alors toute ta vie est bouleversée. Regardez verset 3, et alors quoi ? Tout ton être crie vers l'Éternel, des cris de joie, vers le Dieu vivant. Une traduction littérale, un peu plus précise dans le texte dirait « Mon cœur et ma chair, tout mon être entier crie vers le Dieu vivant. » Encore cette semaine, je suis tombé sur un profil Instagram d'un coach sportif. Et vous savez, ils mettent toujours une bio là, ou quelques mots sur la raison de la page. Et nous pouvions lire cela. « Deviens la meilleure version de toi-même. » Mes amis, nous serons pleinement heureux seulement quand nous aurons compris, comme le psalmiste ici, que la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'être des adorateurs du Dieu vivant. Ce qui est possible, non suivant les conseils d'un super coach sportif, mais en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Notre deuxième point ce matin. Heureux de trouver la force en Dieu. Heureux de trouver la force en Dieu. Les versets 6 à 9. Et je les relis. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Habiter dans la maison de Dieu nous rend heureux parce que notre force vient alors de lui. L'auteur de ce psaume qu'on a dit, il est loin du temple. Alors dans la première strophe qu'on a vue tout à l'heure, on voit qu'il envie un peu ceux qui sont déjà là, ceux qui sont déjà au temple. Dans cette deuxième strophe, il va prendre l'image de ceux qui sont en route vers la maison de Dieu, ceux qui sont en route vers le temple. Regardez verset 6. Des chemins tout tracés. Verset 7, ils traversent la vallée. Vous voyez, il y a un mouvement. Verset 8, pendant la marche. Deuxième partie du verset 8, pour arriver à Sion, endroit où se trouve le temple. L'image reste dans le thème du psalmiste ici, qui est en train de vivre. Il est loin du temple, il veut aller là, mais juste n'oublions pas qu'on est dans un psaume et qu'il s'agit d'un chant et d'un poème. Le psalmiste est en train d'exposer le bonheur de ceux qui font la démarche de trouver leur force en l'Éternel. Regardez verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Lors du voyage, la force de ceux qui cherchent au bon endroit augmente. C'est juste l'inverse de ce qu'on connaît, n'est-ce pas? Demandez à tout sportif, haut niveau ou pas, s'ils ont plus de force avant ou après la course, avant ou après leur combat, avant ou après l'épreuve qu'ils viennent de faire. Normalement, je ne sais pas pour vous, mais moi, plus je marche et plus je suis fatigué, n'est-ce pas? Mais ici, on parle au sens spirituel. Plus tu cherches la présence de Dieu, plus tu cherches à habiter ses parvis, plus tu viens à Christ, seul lieu de réconciliation, et plus la force sera grande. Parce qu'elle vient de qui, verset 9? L'Éternel Dieu de l'univers. La course, la marche chrétienne n'est pas synonyme de fatigue, mais c'est complètement l'inverse. C'est synonyme de ressourcement, de renouvellement. Combien de fois on ne s'est pas demandé comment on va faire pour supporter telle ou telle épreuve? J'entends tellement de fois des personnes me dire « Mais Boris, je suis au bout. J'en peux plus, j'ai plus la force. » Le problème, ce n'est pas de dire cela, mais c'est l'endroit où nous allons chercher notre force. Quand tu as du mal à étudier pour l'école, où est-ce que tu vas chercher ta force? Dans le réconfort de tes parents qui t'encouragent? Dans le fait d'avoir déjà eu des bons résultats par le passé, donc au final, ça va aller aussi? Ou mieux peut-être, dans une canette de Red Bull qui va t'aider à mieux étudier, à te tenir éveillé? Quand tu apprends que suite à un IRM, ton genou gauche n'est pas en bon état et que peut-être il va quand même falloir passer par la case opération. Où est-ce que tu vas chercher ta force? Dans le fait que d'autres ont déjà été opérés de la même opération, ça a été pour eux, donc ça va aller pour toi? Ou dans la vie peut-être des meilleurs médecins, ceux qui ont opéré des grands sportifs, des grands footballeurs, alors tu es prêt à payer le prix plein pour trouver ta force en eux, en réconfort dans ce qu'eux vont te dire. Quand tu vois que jour après jour, ton fils ou ta fille rejette toujours plus Dieu et embrasse toujours plus le monde, qu'il vit ou qu'elle vit dans la débauche et cherche son plaisir dans les futilités du monde. Où est-ce que tu vas chercher ta force ? Dans les conseils d'une amie ? Dans les bras de ton mari, peut-être ? Non, dans un livre acheté au Bon Livre. Être parent, 14 principes bibliques qui transformeront votre famille. Où cherchons-nous notre force pour marcher dans cette vie ? Le verset 6 nous dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors ce verset ici, ce n'est pas en opposition à ce qu'on peut trouver dans Matthieu chapitre 7, verset 14, qui dit que les chemins sont étroits. Ce n'est pas ça du tout, mais ce verset nous indique que si nous puisons notre force en Dieu et en Dieu seul pour traverser les épreuves, les chemins sont clairs. Nous savons où nous allons et avec qui nous allons, et ça nous rend heureux. Normal, regardez verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, la vallée de Baca en hébreu, donc on ne sait pas exactement où elle se situe, mais on sait que quand la Bible parle des vallées, c'est toujours des endroits sombres, difficiles. Rappelez-vous du psaume 23. Ça symbolise les difficultés de la vie, les faiblesses. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que nous dit le verset ? Il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Dieu transforme le pire en meilleur. On comprend très bien l'image ici. Qui d'autre que Dieu peut renverser une situation du tout au tout ? Si la route est déserte et difficile, Dieu peut en faire une oasis, un lieu de ressourcement. Si nous puisons notre force en Dieu, dans sa présence, alors nous trouvons dans les épreuves qui se présentent à nous jour après jour, plein de sources et de bénédictions. Si nous trouvons en Dieu notre force, le pire des épreuves, la pire des souffrances, la pire des douleurs ne pourra entacher notre joie et notre bonheur de nous savoir sauvés. Tellement d'exemples. Un ami qui a été détecté de problèmes de cœur, opération à cœur ouvert. À peine l'opération finie, il s'en remet. Cancer détecté. Gros traitement. Ça n'a pas empêché d'être heureux. Pas heureux de sa maladie, pas heureux de passer dans les souffrances, mais de se savoir sauvé pour l'éternité dans la présence de Dieu, sur les parvis de l'Éternel, éternellement. Ma grand-mère, 95 ans, qui est décédée maintenant. J'allais la voir que rarement parce qu'elle était en Pologne. Chaque fois que j'allais la voir, elle ne voyait plus que d'un œil encore, c'était limite. Elle avait toujours mal à la jambe, elle ne pouvait pas rester un quart d'heure debout. Et quand je lui disais, mais comment tu vas ? Elle m'a dit, je suis heureuse. Heureuse parce que le Seigneur m'a sauvée, parce que je sais que je passerai l'éternité à ses côtés. Les circonstances, bien sûr, étaient douloureuses, étaient difficiles, mais tellement peu de choses parce que sa force venait et était puisée dans l'Éternel, dans le salut que Dieu lui accordait. La force de Dieu est notre sécurité, au point même que les vallées de la vie deviennent des lieux fertiles. Selon notre attachement à Dieu, la même réalité prend un aspect totalement différent. Verset bien connu, Jacques, chapitre 1, verset 2, nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Plus facile à lire qu'à faire, n'est-ce pas ? C'est pour cela qu'au verset 9, l'auteur de ce psaume ici « Prie l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Regardez verset 9. « Écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Comme le psalmiste, nous avons besoin de prier Dieu pour qu'il nous donne sa force. Et pas juste une seule fois, nous devons le prier constamment. Vous savez, le fil conducteur de ce psaume, c'est la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et ça me fait penser à une histoire, quelque chose qui m'arrive avec mes enfants. Souvent, mes enfants me reprochent de ne pas passer du temps assez avec moi. Moi, ça m'étonne, ça fait 3 jours que je suis à la maison, non-stop. Je n'ai pas quitté la maison, même pas pour aller faire une course. Ils sont avec moi à la maison, ils sont en congé. 3 jours totalement ensemble. C'est vrai que je suis un peu dans mes livres et sur mon ordinateur en train de travailler. Mais eux me reprochent que je n'ai pas passé du temps avec eux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent que la relation soit intentionnelle. Être au même endroit ne suffit pas. Ils veulent que j'ai un souci pour eux. Ils veulent un échange avec moi. Avec Dieu, c'est la même chose. Si nous voulons surmonter les épreuves de la vie avec la force de Dieu, nous ne devons pas nous contenter du jour de notre conversion. Non. Là, ce jour-là, on est entré dans la maison de Dieu, oui, dans la présence de Dieu, mais nous devons constamment venir à lui pour lui demander son aide et sa force. Notre troisième point ce matin. Heureux de faire confiance à Dieu, les versets 10 à 13. Troisième strophe de ce chant, de ce psaume, et je la relis. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. L'idée de cette troisième strophe est résumée au verset 11 et on l'a entendu dans une prière ce matin. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Le psalmiste nous dit qu'il est préférable d'habiter un jour, une seule journée, dans la présence de Dieu que 1000 jours dans un hôtel 5 étoiles à l'île Maurice en pension complète. Rien n'est comparable à la présence de Dieu. Et le psalmiste a confiance que même si les circonstances ne sont pas en sa faveur, il est loin du temple à quoi il écrit ce psaume. C'est ce qui peut lui arriver de mieux et le rendre heureux. Nos situations semblent parfois compliquées et peut-être même des situations les plus à plaindre. Mais nous pouvons avoir confiance que d'être dans la présence de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ n'est comparable à rien d'autre. J'ai parlé d'un hôtel à l'île Maurice, pensez à ce que vous voulez, la plus belle destination pour vous. Être un jour dans la présence de Dieu est bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et d'ailleurs, le psalmiste ici va accentuer cette idée en disant que habiter sur le seuil de la maison de Dieu est mieux que d'avoir un mauvais toit au-dessus de la tête. Comme disait Spurgeon, le pire de Dieu vaut mieux que le meilleur du diable. Mais pourquoi tant de confiance en Dieu ? Pourquoi reconnaître que la présence de Dieu est la meilleure place ? La meilleure place pour nous rendre heureux et pour faire notre bonheur ? Pourquoi ? Parce que Dieu, verset 10, regarde avec moi. Parce que Dieu est notre bouclier. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil. Et encore une fois, au bouclier, parce que l'Éternel donne la grâce et la gloire, parce que l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu est un soleil. Pour les bons Belges, quelle véritable bénédiction, n'est-ce pas ? Dieu est celui qui nous fait du bien. Dieu est celui qui nous illumine. Dieu est un bouclier. Ça revient 2 fois dans ce psaume. Il est celui qui nous protège, celui qui prend soin de nous, celui qui empêche les flèches et les coups mortels de nous atteindre. La mort n'est plus, tu es vivant maintenant. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Dieu te place dans une situation qui est au-dessus de tes attentes. Tu n'as jamais mérité cette place. Pourtant, c'est là que Dieu te place. Dieu te donne la grâce et la gloire. Et puis pour terminer, Dieu fait quoi ? Il ne refuse aucun bien. Aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, à ceux qui ont une foi vivante, une foi sincère dans la croix de Jésus-Christ. Dieu te comble de tout ce que tu as besoin. Rien ne te manque. C'est l'idée de cette strophe ici. Si tu as Dieu, alors tu as tout. Si tu as Dieu, tu as tout. Tu n'as besoin de rien d'autre. À tel point que le psalmiste au verset 18 reconnaît que même le roi que Dieu a placé à la tête de ce peuple, pardon, a besoin de lui pour accomplir sa tâche. Regardez verset 10. Porte un regard sur lui, équipe ton roi. Équipe-le par ta force, parce que nous avons confiance que sans toi, il ne peut rien faire. Nous avons besoin plus que d'un roi, nous avons besoin de Dieu. Pour conclure, je vous invite à relire le verset 13. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. En quoi plaçons-nous notre confiance pour être heureux ? Dans notre capacité à pratiquer tel ou tel sport ? Ou peut-être on place notre confiance dans le fait de se marier et d'avoir des enfants ? Ça, c'est vraiment ce qui va me satisfaire. Ça, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Ou juste peut-être dans la capacité financière de répondre aux aléas de la vie. Je ne demande pas d'être riche, mais voilà, juste si ma machine à lessive tombe en panne, si je peux... Ça va me rassurer. Là, je serai en sécurité. Alors, je serai heureux. En fait, non. Si mon dernier réel Instagram a-t-elle les 500 vues, alors là, je serai vraiment content. Je serai vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Ou alors, rien de tout cela. Nous pensons que le bonheur, ça se trouve dans les choses simples de la vie. Juste aller prendre du temps, un jour ou deux, trois, peut-être un long week-end, en nature, à la mer, à la montagne, à la forêt, ça dépend de ce que vous préférez comme paysage, à la plage. Ça me rendra vraiment heureux. Quel bonheur, juste au calme. Alors peut-être qu'après cette liste, la majorité d'entre vous pense ceci. Toutes ces choses ne me concernent pas. Moi, je place ma confiance uniquement dans Dieu pour être heureux. Ça c'est mon cas. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Réfléchis juste à cette question. Quelle place Dieu a dans tes journées ? Quelle place Dieu a dans tes journées ? Qu'en penses-tu à Dieu au quotidien ? Quand, Boris, est-ce que tu penses à Dieu dans ta journée ? Dieu est-il vraiment notre priorité pour être heureux ? Si nous voulons être heureux, en célébrant Dieu sans cesse, comme ce psalmiste qui s'imagine tous ceux qui sont dans la maison de l'Éternel au temple, ils célèbrent Dieu sans cesse. Pardon. Si nous voulons être heureux en trouvant notre force en lui, comme dans les vallées les plus sombres, alors plaçons notre confiance. Non, dans les biens que Dieu nous donne, au verset 12, on voit ça, nous aurons tous les biens, Dieu va nous combler de tout ce qu'on veut, mais qu'on ne place pas notre confiance en ça, mais qu'on place uniquement notre confiance dans celui qui nous les donne. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons, comme ce psalmiste, répondre à la solution pour être heureux. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons te célébrer sans cesse. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à désirer habiter dans ta présence, dans tes parvis, sur le seuil. Parce que nous savons que c'est la meilleure chose. C'est là que nous pourrons puiser notre force pour avancer et marcher vers cette destination finale que tu nous promets, où nous pourrons te louer et t'adorer parfaitement. Seigneur, merci parce que tu es ce soleil. Tu nous donnes grâce et gloire alors que nous ne méritons rien. Merci parce que tu nous combles de bénédictions. Merci parce que en toi, nous pouvons trouver le bonheur et la joie éternelle. Amen.